franceinter.fr.
De très nombreuses fleurs ont des reflets ultraviolets pour mieux attirer les pollinisateurs. C'est une découverte remarquable aujourd'hui à la une de la science.
Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
Voilà, une jolie fleur de Brassens d'un côté et la recherche de cette équipe de l'université de Cambridge de l'autre qui vient de percer un secret bien gardé et pourtant, on va le voir, fondamental de la biologie végétale puisque les pétales de très nombreuses plantes à fleurs ont des nanostructures qui leur permettent de refléter la lumière ultraviolet du soleil. C'est un halo bleu et violet qui attire les abeilles et les bourdons en particulier. On en discute avec une des auteurs de ces travaux, Axel Villard.
Oui, on est au téléphone avec vous, Edwige Moiroux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste à l'université de Cambridge, au département de biologie végétale, premier auteur de ces travaux. Alors, comment est-ce que vous avez découvert ce halo qui est invisible à nos yeux, hein ?
Alors, en fait, c'est vraiment une longue histoire. Le groupe à Cambridge avait déjà fait des travaux précédemment où ils avaient identifié une première fleur qui semblait créer ces espèces d'effets structurels, hein. Donc, on parle de couleurs qui ne sont pas faites par des pigments, mais qui sont produites par des structures microscopiques invisibles à l'œil nu, qui jouent avec la lumière et qui donc révèlent les différentes longueurs d'onde qui créent les différentes couleurs, qui normalement sont mélangées et créent de la lumière blanche qui nous entoure.
Où est-ce que se trouvent les structures dont vous parlez sur les pétales ?
Donc, elles peuvent être à différents endroits sur les pétales. Généralement, c'est la partie du pétale qui est exposée à la lumière. Donc, c'est aussi la partie du pétale qu'on voit le mieux, mais c'est aussi la partie du pétale que les pollinisateurs voient le mieux aussi.
Et à un moment, vous vous êtes dit peut-être que toutes les fleurs ont ces structures, c'est ça ?
En fait, donc, on n'en avait vu qu'une. Et une des choses qui nous intéressait, c'était de savoir si on était tombé sur une espèce exotique qui avait un mécanisme très excentrique, ou si au contraire, on était en train de comprendre un mécanisme qui était bien plus universel. Donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est d'utiliser les collections des jardins botaniques de Cambridge et de Kew à Londres pour essayer de voir si on pouvait trouver plus d'une espèce qui produisait cet effet.
Mais ce processus, lorsqu'il a été découvert pour la première fois sur la première fleur, c'était quoi ? C'était l'effet du hasard ? Comment ça a été identifié, puisque c'est invisible à l'œil nu ?
Donc c'est visible à l'œil nu chez très peu d'espèces, les espèces qui ont aussi un pigment très foncé. Donc la première espèce sur laquelle cet effet a été reporté, c'est une espèce d'hibiscus. Et c'est un hibiscus qui a un pigment violet très très concentré, ce qui fait que le pétale, une partie du pétale a l'air presque noire. Et sur cette partie noire, on peut voir un aspect iridescent, un petit peu si vous regardez une tache d'huile par terre ou une bulle de savon.
Ouais.
Et donc c'est cette espèce d'iridescence qui a attiré l'œil des biologistes en premier.
Et est-ce qu'il est possible de décrire comment les pollinisateurs, eux, voient cette iridescence-là ?
Alors, oui et non. Ce que l'on sait, c'est que cette iridescence particulière des fleurs est décalée dans la partie bleue ultraviolette. Donc on sait qu'ils vont pouvoir percevoir des signaux très très vifs, bleus ultraviolets. Maintenant, une des choses qu'on aimerait comprendre et qu'on ne comprend toujours pas, c'est de savoir, une des caractéristiques de ces couleurs structurelles, c'est qu'elles changent avec l'angle d'observation. Donc si vous regardez la fleur à certains angles, vous ne voyez pas du tout l'effet. Si on regarde à d'autres angles, on voit un effet bleu très fort. Et les pollinisateurs ont des yeux qui sont très différents des nôtres. Ce sont des yeux composés à facettes. Et donc, une des questions intéressantes, c'est de savoir si les différentes facettes, les différents yeux, si vous voulez, de cet œil composé, perçoivent différents effets de l'iridescence. Donc ça, on ne peut pas encore reconstruire complètement l'effet. On sait qu'ils le perçoivent, mais on ne sait pas exactement comment.
Et est-ce qu'on sait si ces insectes peuvent percevoir tout le temps, justement, cet halo bleu ou pas ?
Donc non, ça va être à certains angles d'approche. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand vous observez en ralenti un pollinisateur qui s'approche d'une fleur, il y a une espèce d'effet où ils arrivent vers la fleur et ils bougent autour de la fleur. Donc ils vont être exposés à différents angles de vision.
Et est-ce que pour vous, il est possible de voir vous-même en tournant la fleur les reflets sur des fleurs auxquelles on ne faisait pas attention avant ?
Oui, exactement, absolument. Donc, cette espèce d'hibiscus, c'est pas une espèce très très commune, hein, mais il y a des espèces de tulipes, par exemple. Il y a une tulipe très connue des jardiniers qui s'appelle la reine de la nuit, et elle est très connue parce que c'est une tulipe noire. Donc, c'est pas une espèce naturelle, c'est une variété qui a été en fait produite à travers des années de sélection pour essayer d'obtenir une tulipe qui soit presque noire. Et en fait, c'est pratique pour nous parce que comme elle est noire, on voit très bien les effets d'iridescence. Et on peut voir cet effet de halo bleu à certains angles si vous bougez la fleur en face de vos yeux.
Et physiquement, comment la fleur fait pour produire ces structures qui reflètent seulement les ultraviolets ?
Alors ça, c'est aussi une grande question qui nous intéresse. On espère qu'on sera capable d'expliquer ça bientôt. Cet effet est créé par des striations sur la surface du pétale. Et ces stries, elles sont très très petites. Elles sont quelques centaines de nanomètres, hein, donc moins d'un micromètre. Et jusqu'à présent, on ne sait pas exactement comment les cellules de la fleur vont contrôler ce qui se passe sur la surface pour créer ces stries, mais on commence à avoir quelques idées.
Est-ce qu'il y a une histoire d'évolution là-dedans, de sélection de certains types de stries ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ?
Oui. Donc, sur les différentes espèces qu'on a observées, on a vu que la forme des stries pouvait varier. Mais il y a une pression de sélection pour essayer de garder une certaine quantité de désordre. Donc, ces stries, elles ne sont pas parfaitement alignées. Si vous imaginez quelque chose de très proche, c'est si vous regardez l'envers d'un CD. Mm-hmm. L'envers d'un CD, vous allez voir les effets d'iridescence, donc vous voyez toutes ces couleurs, toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Et c'est créé par les données du CD, les pistes d'inscription du CD, qui sont en fait une série de stries et de vallées qui sont séparées les unes des autres à un intervalle très régulier. Donc vous avez des stries qui sont parfaitement identiques, parfaitement espacées. Sur nos fleurs, ce qu'on observe, c'est qu'on a un système de stries, mais les stries ne sont pas toujours parfaitement séparées et leur hauteur, leur épaisseur peut varier. Et ça, c'est très important parce que c'est cette variation qui crée l'effet du halo bleu. Au lieu d'avoir un effet arc-en-ciel qui produit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on a une iridescence qui produit uniquement des couleurs dans la partie bleue et ultraviolette du spectre.
Est-ce qu'on peut dire que les fleurs ont un filtre UV d'amour pour les pollinisateurs ?
Alors, elles ont plus d'un filtre, en fait, parce que certaines fleurs vont avoir un filtre UV pour protéger des rayons UV. Hein. Les fleurs n'ont pas forcément envie, en quelque sorte, d'être exposées aux rayons UV qui pourraient causer des dommages sur leur ADN, comme n'importe quel organisme vivant. Mais une autre façon de créer un filtre, c'est d'utiliser ce rayonnement UV pour créer des couleurs qui soient visibles, très visibles pour les insectes.
Sébastien Boller, vous avez une question pour Edwige Moiroux.
Oui, sur toute bête, je me demandais pourquoi est-ce que la lumière ultraviolette les attire, en fait ?
Alors, on ne sait pas exactement si elle les attire. Ce qu'on sait, c'est que c'est une couleur que les insectes voient très bien, parce que contrairement à nous, les insectes ont des photorécepteurs dans leur système visuel pour le bleu, le vert, mais aussi pour l'UV. Et nous n'avons pas ces photorécepteurs pour l'UV. Donc, pour nous, l'UV n'est pas quelque chose que l'on voit, alors que c'est une couleur supplémentaire, si vous voulez, de l'arc-en-ciel que les pollinisateurs peuvent voir.
Justement, vous avez travaillé sur les abeilles et les bourdons, c'est ça principalement ?
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les réactions des autres insectes vis-à-vis de ce halo ?
Non. Alors, ce qu'on peut, si on devait faire émettre une hypothèse, il y a des chances que les abeilles à miel voient ce blue halo très bien également, parce que leur système visuel est très 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 proche du système visuel des bourdons. Après, si on s'éloigne des insectes, c'est très difficile de faire une prédiction concernant la perception des oiseaux. Il faudrait qu'on fasse des expériences en plus. C'est un petit peu plus compliqué qu'avec des abeilles, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans le futur.
Vous avez testé directement l'effet de ce halo en enlevant le côté fleur et en gardant que la structure sur des pollinisateurs ?
Voilà, exactement. Donc quand on essaye de faire des expériences de comportement avec les animaux, si on garde une structure florale identique à la fleur naturelle, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent varier. Donc on essaye de faire des expériences contrôlées où le seul paramètre qui change, c'est la présence ou l'absence du halo bleu. Et en faisant ça, on a pu voir mesurer exactement la contribution du halo bleu au comportement des insectes.
Merci beaucoup en tout cas Edwige Moiroux pour ces explications liées à votre découverte, celle de votre laboratoire. Vous êtes biologiste à l'université de Cambridge en Angleterre. Ça fait l'objet d'une publication ces derniers jours. Merci beaucoup d'être passé par la Une de la Science. À bientôt.
Merci à vous.
Et Axel, à demain.
À demain et au revoir Edwige.
Allez, en bref. Dans le reste de l'actualité scientifique, alors que se joue en ce moment le destin de l'Europe face au glyphosate, cet herbicide controversé, bien les chercheurs californiens expliquent que la plupart des Américains ne savent même pas qu'ils absorbent quotidiennement cette molécule dans leur alimentation. Le taux de glyphosate dans l'organisme des citoyens américains est pourtant en augmentation constante depuis 1994, date qui correspond au début des cultures génétiquement modifiées sur laquelle il devenait possible d'utiliser cet herbicide. Quelques milliers de personnes aux États-Unis atteintes de cancers spécifiques ont engagé une action en justice contre le géant Monsanto. Les mésanges charbonnières britanniques ont le bec qui s'allonge en comparant les populations de Grande-Bretagne à celles des Pays-Bas. Des chercheurs montrent que les becs de mésanges anglaises grandissent de génération en génération, alors que ça n'est pas le cas aux Pays-Bas. Une sélection naturelle est donc à l'œuvre et qui s'explique simplement par une habitude prise par les Anglais d'installer des mangeoires pour les oiseaux dans leur jardin. Pratique moins courante aux Pays-Bas visiblement, les oiseaux naissant par hasard avec un bec plus long ayant plus de facilité à se nourrir dans ces abris en Angleterre ont aussi un plus grand succès reproductif. Encore un exemple de notre impact sur la sélection naturelle des espèces que nous côtoyons. Et puis pour terminer, pour les curieux de physique de l'univers, l'université de Cambridge vient de mettre en accès libre et gratuitement la thèse du physicien star Stephen Hawking. Le manuscrit est disponible depuis hier sur le site de l'université qui a connu déjà plusieurs crashs suite à l'afflux de visiteurs. Si vous souhaitez déchiffrer à votre tour cette thèse rédigée à la machine à écrire il y a plus de 50 ans et intitulée « Les propriétés de l'univers en expansion », nous avons mis un lien pour vous sur la page Facebook de la Tête au Carré.